Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme que la lecture a guérie. Comment ? Eh bien, on y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Khaira Bouazza, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment vas-tu?
Ça va, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Khaira, tout va bien?
Tout le plaisir est pour moi Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Moi ça va, alhamdoulilah, très bien.
Alors, Khaira, toi tu es, entre autres, tu accompagnes beaucoup les gens et tu parles beaucoup de ça, de l'importance de la lecture pour aller mieux, la thérapie par la lecture.
Exactement.
Et d'ailleurs, tu es la fondatrice de ce que tu appelles de bibliothérapie. Et moi, ce qui m'intrigue, et malheureusement, ça c'est les stéréotypes qui nous contrôlent, c'est que tu es une jeune femme, donc tu es dans la trentaine, et on a tendance à penser que les jeunes de ta génération, de ton âge, sont très peu intéressés par la lecture. Et par les bouquins.
Oui, effectivement, par rapport à ce que tu as dit.
Pour démarrer.
Mais après, ça a commencé dans la réponse. Alors, je vais te parler de moi, comment ça a commencé pour moi, et j'espère que cette histoire inspirera d'autres personnes.
Ok.
Alors, en fait, moi, il y a 3-4 ans, genre en 2019, heureusement, juste un peu avant Covid, j'ai eu une sorte de prise de conscience, une sorte de feeling de tu te dis, j'ai l'impression que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, alhamdoulilah, tout va bien, la santé, le travail, la famille, mais j'ai quelque chose qui manque. On va dire qu'il y a un petit truc qui manque, une sorte de vide, une sorte de chose qui manque à mon quotidien. J'ai fait ce que j'appelle moi le bilan annuel, donc avant la fin d'année, je regarde mes habitudes. Quelles sont les bonnes habitudes que j'ai, quelles sont les mauvaises. Et malheureusement pour moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de mauvaises habitudes que de bonnes. C'était la télé, manger mal, avoir le téléphone jusqu'à pas d'heure. Et moi, mon métier, il est dans le digital, donc l'utilisation excessive des écrans et du digital. Et j'ai commencé alors à réfléchir à quelle est cette habitude que je pourrais introduire à mon quotidien qui ne demanderait pas beaucoup d'efforts ni de temps et qui pourrait quand même m'aider à améliorer pas mal de choses dans ma vie, quoi. Et c'est à ce moment-là que bon, j'ai fait le bilan, encore une fois, des compétences que je pouvais rajouter. Et j'ai vu que le sport, c'était un peu plus difficile. À ce moment-là, j'avais une petite fille et heureusement, encore une fois, il n'y avait pas encore Covid, mais juste après, j'allais être confinée. Et donc, j'ai pensé à la lecture. Je me suis dit, les livres, c'est quelque chose qui me rappelle mon enfance, que j'aimais beaucoup lire quand j'étais plus jeune.
D'accord.
Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Et donc, je me suis dit, la lecture, ça, c'est simple, ça ne demande pas un gros investissement, ça ne demande pas énormément d'énergie. Je vais juste arrêter le téléphone quelques minutes avant le sommeil et le remplacer par un livre. C'est ce que j'ai fait et pour confirmer mon engagement, je suis partie dans une librairie et j'ai pris 12 livres. Et je me suis dit, ça, c'est mon objectif pour cette année 2020. Je vais lire un livre par mois minimum. J'ai fait le calcul, c'était à peine 10 minutes par jour. Je me suis dit que c'était faisable. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire et quand je me suis rendu compte que c'était en fait tellement bénéfique pour moi, mais en même temps facile à intégrer au quotidien, ça ne demande pas de gros efforts. J'ai commencé à en parler autour de moi justement et pouvoir renouer cette relation-là que les jeunes avaient avec la lecture et qu'ils ont perdue.
Ok, alors on retourne à plusieurs étapes de ce processus.
Vas-y.
Parce que quand tu le racontes, on a l'impression que c'est très simple, mais comme tu l'as dit, tu avais des habitudes bien ancrées. Donc en fait, il y a plusieurs dossiers qui se sont ouverts. Un, prise de conscience que quelque chose ne va pas bien. Donc s'écouter, écouter ses émotions, décrypter ses émotions, prendre le temps, le recul nécessaire, parce que ça ne s'est pas fait, j'imagine, en un claquement de doigts. Donc avec toi, en fait, on est en train de découvrir que on peut s'écouter, on peut se parler, on peut aller fouiller en soi, et il faut le vouloir et il faut l'accepter. Déjà, il y a ça.
Effectivement, il faut s'écouter. Il faut savoir accepter quand il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a tendance à fuir. Dès que ça va mal, on va justement trouver encore plus d'habitudes qui vont nous faire vivre des plaisirs qui sont rapides, la gratification instantanée. On va sur le téléphone, on va sur Netflix, on va commander à manger. on va oublier qu'il y a quelque chose qui va revenir nous rappeler plus tard que ça va quand même pas. Et donc c'est là où il faut vraiment prendre conscience que c'est sur le long terme que ça peut se régler. Il n'y a pas de solution immédiate, il n'y a pas de médicament miracle. Quand on ressent ce, je ne vais pas qualifier ça de vide existentiel parce que chacun comment il le vit, mais c'est, ça peut être un petit mal-être, un petit malaise, je ne me sens pas bien, j'ai des petites crises d'angoisse de temps en temps, je ne suis pas épanouie, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà quoi, il y a un petit truc qui manque. Donc c'est là qu'il faut se dire que j'ai quelque chose à régler sur le long terme.
C'est ça.
Et être prête, justement, prête à l'engagement.
Oui. Et pourtant, toi, tu n'étais pas forcément dès le départ dans le développement personnel. Tu étais dans un autre secteur.
Exactement. Pas du tout. Le monde du développement personnel, je ne connaissais pas. Enfin, de loin, quoi, à travers les réseaux sociaux. Mais c'est à travers les livres que j'ai découvert. Que quand j'ai souhaité lire, je me suis dit, bon, les romans, je préfère regarder des films, ça va être plus simple. Donc, si je lis, je voudrais que ce soit en même temps bénéfique et que ça me permette d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai commencé mes recherches et j'ai vu que le développement personnel était plutôt pas mal pour moi.
Donc, c'était par hasard, en fait.
C'était par hasard, c'est... voilà.
Ouais,
après,
voilà.
Ça dépend si on croit ou non.
Hasard, oui. Voilà. On va dire que ça s'est fait par hasard, en fait. C'est oui. Cet attrait pour le développement personnel. Et en fait, une fois que vous avez... Il y a eu le Covid, j'imagine. Ça vous a laissé encore plus de temps pour lire.
Exactement. Je me suis dit, tant mieux, j'avais mon petit stock de livres. Et j'étais déjà déterminée à travailler sur moi. Donc, le Covid a été plus une période d'introspection, de vraiment de repos, de pause... Et d'avoir un peu de recul par rapport à la vie d'avant. Et ça m'a permis de lire de manière plus rapide, de pouvoir me concentrer dessus, de pouvoir méditer sur mes lectures et comprendre ce que ces lectures avaient à m'enseigner, d'en savoir plus sur moi, de passer du temps en famille et tout ça, c'était bénéfique. Ça m'a permis de comprendre ce que c'était que des traumatismes d'enfance, ce que c'était que des blessures, ce que c'était que tout ce que je ressentais, j'arrivais enfin à mettre des mots dessus.
Oui.
Donc, et c'est là que je me disais, waouh, cette lecture-là, ces lectures, elles sont vraiment life-changing, comme on dit. Et j'ai commencé à surligner les mots qui m'intéressaient, j'en parlais avec mon entourage, je partageais, je dis, regarde ce que j'ai découvert la dernière fois, si je me suis énervée, c'était pour ça. Et je commençais à comprendre mes émotions, comprendre d'où venaient mes frustrations, mes colères. Et donc, ça a continué comme ça. Jusqu'à après Covid, juste après le premier confinement, j'ai découvert qu'il y avait une école de coaching à Casablanca et j'ai consulté leur contenu. Et c'est là que j'ai su que ce monde était vraiment en train de m'appeler et j'ai décidé de concrétiser ce que j'avais commencé comme travail avec les livres pour aller faire une formation en coaching et en développement personnel officiellement à Casablanca pour comprendre avec des outils et des textes.
Alors, Khaira, on va revenir à cette histoire de stéréotypes, justement, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ta génération souffre de stéréotypes ?
Je pense qu'il y a des stéréotypes qui circulent, évidemment, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que toutes les générations en souffrent et que toutes les générations avant nous ont forcément mis des étiquettes et des titres sur les générations d'après et ainsi de suite.
C'est vrai, moi, c'est une analyse...
C'est un chemin individuel.
Oui, absolument, absolument. En fait, dernièrement, j'ai eu le plaisir d'interviewer une jeune femme aussi qui parlait de l'importance d'avoir les pieds sur terre, de que cette génération-là a grandi vraiment dans beaucoup plus de confort matériel, etc. Les parents sont là pour faire de leur mieux pour leurs enfants. Les enfants, c'est la priorité. Leurs besoins, c'est leur priorité. Mais qu'arrivé sur le marché du travail, les choses changent. On se rend compte que finalement, on peut pas vivre dans le même luxe que les parents, que celui que les parents, quel que soit ce luxe, en fait, tout est relatif, bien sûr, mais dans ce confort, on va dire, que les parents ont mis à notre disposition. Et avec elle aussi, on a parlé de ces différences générationnelles et ces discussions de femmes d'aujourd'hui avec des femmes de ta génération. C'est aussi important pour rapprocher, on va dire, les mentalités, montrer qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas une scissure, il n'y a pas une coupure entre la génération X, Y, Z. Bon, il y a des choses qui ont changé. Vous êtes une génération qui a grandi, qui est née, qui a grandi avec le digital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu l'as dit, tu as dit, ben, j'ai décidé de prendre un peu moins mon téléphone, voilà, et prendre un peu plus un livre. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je te pousse un peu dans ce genre de questions.
Tu as raison par rapport au point que tu as cité. Il y en a un deuxième aussi qu'on a plus ou moins abordé, c'est justement le digital et en particulier les réseaux sociaux. C'était une vraie problématique aujourd'hui. Surtout qu'on se retrouve à devoir se comparer, à être dans, constamment confronté à une réalité qui est très différente de la vraie réalité. Et du coup, on a du mal à garder les pieds sur terre. Parce qu'on voit, il y a des gens qui sont en vacances tout le temps, des gens qui sont bien, qui ont l'air d'avoir qui arborent en fait leurs biens matériels. Et c'est ce qui crée des frustrations chez les personnes qui ne savent pas que ça reste des réseaux sociaux, ça reste des choses qui sont filmées en 30 secondes et après la réalité carrément ailleurs.
Prends le dessus, exactement.
C'est ça. Et donc les gens, ils sont dans cette... Ils souffrent de cette comparaison et des fois c'est inconscient. On a l'impression qu'on sait que c'est que des réseaux sociaux, mais à force d'être, d'avoir les yeux là-dessus, à force de voir des stories, à force de voir les gens qui arborent leur bonheur, on commence à croire qu'il manque quelque chose à notre vie, alors que vraiment il nous manque rien. On a tous en nous les ressources nécessaires, on a ce qu'il nous faut pour réussir à être heureux avec ce qu'on a, quoi. Avec des fois c'est un petit livre, avoir un toit, avoir de quoi manger, et alhamdoulilah, tout va bien, on peut passer une très bonne journée.
Ouais.
Pas besoin de gros luxe, pas besoin de sortir ou d'être en voyage à chaque fois pour se dire que j'ai réussi ma vie ou là, ainsi de suite. Donc la barre et les critères de réussite ont été différents pendant pour cette génération-là. Avant, c'était plus simple, on va dire.
Oui, absolument. Avant, c'était plus simple. Il y avait des choses beaucoup plus simples. La bibliothérapie, justement, ce que tu as développé en partant de ta propre expérience. Donc, tu as redécouvert l'amour de la lecture. Tu as accompagné ça par une formation en coaching. Et donc, c'était quoi, un projet de fin de formation? C'est comme ça que c'est né? Comment c'est né exactement?
En fait, quand j'ai fini la formation, je me suis dit, il faut faire quelque chose de tout ça. J'ai besoin de le partager avec plus de monde. Et je vais penser à un concept de coaching, mais qui me plaît et qui me passionne pour que je puisse m'y investir à fond. Et c'est là que l'idée des livres est venue. Je me suis dit, tiens, je vais allier les deux, comme je fais déjà pour moi-même. Ça va être beaucoup plus simple et je vais garder le même concept. Moi, j'ai commencé avec un livre par mois. Je vais demander aux gens de lire aussi un livre par mois. Ce n'est pas un gros investissement, ni en temps, ni en argent. C'est très faisable pour tout le monde et ça apporte beaucoup de choses bénéfiques. En même temps, moi, ce que j'ai commencé à faire après, quand j'ai développer ma pratique de plus en plus, c'est que je prenais un livre par thématique pour m'accompagner sur mon besoin, ma problématique du moment. C'est-à-dire que là, par exemple, si c'est la rentrée, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'installer de bonnes habitudes, j'ai besoin de me remettre sur pied pour travailler, je vais aller chercher un livre qui va m'accompagner dans cette direction-là. Et c'est ce que j'ai commencé à faire au fur et à mesure pour la communauté, c'est de proposer des livres qui allaient avec le besoin de la saison, le besoin du moment ou le besoin du club qui me communiquait quel était la problématique qui était dominante par rapport à ce qu'ils recherchaient. Et donc, c'était un livre qu'on lisait ensemble pour ensuite venir se rassembler dans un cercle de parole, un club de lecture, mais un peu plus que ça, parce que c'est un espace, c'est une communauté qui s'est créée au fur et à mesure des mois. Donc, il y a des liens qui se sont tissés. C'est devenu beaucoup plus que ce que j'ai imaginé moi au début. Je t'avoue que même moi, j'ai été dépassée à un moment par la profondeur et la sensibilité de ces groupes qui ont commencé à se créer. Donc, ça part d'un livre et on finit à parler d'émotions. Des fois, on pleure, des fois, on se fait des câlins, des fois, on se raconte sa vie. Et franchement, c'est quelque chose de très beau. Ça m'a aussi permis de me reconnecter à l'humain, de voir la sensibilité de chacun. Alors que derrière les écrans, c'est un peu plus froid, il y a des règles, il y a des cadres à suivre, alors que là, on lâche tout, on oublie tout, on met les téléphones de côté, en mode silencieux, on est là à 2 heures, à 3 heures à parler, papoter, écouter chacun, donner la bienveillance nécessaire et le temps de parole nécessaire à chacun, être là, répondre à des questions, aider en fait la personne à aller creuser un peu plus vers sa problématique. Ils partent en même temps avec des résumés de livres et des exercices à chaque fois qui sont différents, des outils pour qu'ils puissent continuer ce travail chez eux.
Donc, c'est de vraies séances d'accompagnement, c'est-à-dire c'est pas un simple club de lecture. Voilà. Mais comment tu as fait pour installer ta marque?
Bah, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, encore une fois, on ne va pas que les diaboliser, mais on va dire qu'ils m'ont plutôt aidée. Donc c'est à travers le compte Instagram, à travers ma page personnelle qui avait déjà quelques followers au début, qui m'a aidée à avoir des personnes qui se sont intéressées au concept. Je fais ce qu'il y a de plus simple, une création de page Instagram, et expliquer, faire une foire aux questions, quelques stories, et heureusement les gens ont adhéré, ils ont senti. Après c'est le bouche à oreille, c'est des gens qui ramènent des amis, c'est des personnes qui aiment le concept, donc qui m'aident aussi à en faire la promotion, et c'est comme ça que ça a démarré.
Et aujourd'hui, c'est ton métier aussi?
Oui, j'ai deux casquettes encore une fois aujourd'hui. C'est celle de coach de ce que je fais dans le cadre de la bullothérapie. Et je suis en même temps dans le digital, dans la formation et l'accompagnement digital.
Est-ce que Rera, ça te permet de vivre aujourd'hui ta vie de femme, ta vie de maman, différemment?
Complètement. C'est quelque chose qui m'a personnellement aidée à transformer ma vie, à me retrouver plus épanouie, pouvoir avoir des moments de paix, mieux vivre ma maternité, mieux vivre dans le couple, mieux vivre avec ma famille aussi, mes parents, ma sœur. Ça m'a aidée à améliorer mes relations, guérir de choses qui étaient encore sur le cœur depuis longtemps et dont j'ai pu me débarrasser. Donc franchement, et le fait d'avoir cette liberté, cette façon de pratiquer mon métier me rapporte énormément d'énergie. C'est épanouissant au quotidien. Donc je ne peux que recevoir de la gratitude et me dire alhamdoulilah à chaque fois de pouvoir oser cette voie qui était très différente, on ne va pas se le mentir, mais le coaching au Maroc, lancer un nouveau concept en étant encore une fois jeune, il y avait beaucoup de doutes, de peur, de qu'est-ce qu'on va dire, de la peur de l'échec et tout ça, mais je suis contente d'avoir quand même osé.
C'est ça en fait, c'est bien aussi d'avoir parlé de ça, l'âge, la jeunesse, est-ce que je suis crédible? Parce que souvent, on pense qu'il faut avoir roulé sa bosse dans la vie, avoir vécu longtemps pour avoir assez d'expérience aussi pour pouvoir accompagner les autres, alors que cette sensibilité que toi tu as, c'est pas forcément un besoin d'années de vie, mais c'est aussi une sensibilité, le besoin de partager. Mais quand je dis est-ce que ça t'a permis de vivre la maternité différemment et le couple différemment, la vie différemment, est-ce qu'on peut aller sur un exemple concret?
Oui, on peut aller sur un exemple concret. On va parler de l'éducation positive, par exemple. C'est quelque chose que je voyais avant d'être mère sur les livres, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Après, je me suis renseignée à travers des livres, en suivant des coachs en éducation positive. Et alhamdoulilah, je peux dire qu'aujourd'hui, ma fille a 5 ans et j'applique toutes les règles de l'éducation positive. Elle n'a jamais su ce que c'est qu'être tapée, ou là, ce que c'est que de lui crier dessus, ou là, ce que c'est que de recevoir de l'agression, de la violence de la part des parents. Et ça aussi, j'en suis reconnaissante.
C'était important pour toi?
C'était important pour moi parce que des fois, on ne sait pas, on a grandi, on va reproduire des choses qu'on a vues autour de nous. Les parents qui tapent, c'est quelque chose de naturel au Maroc, on ne va pas se mentir, mais c'est normal de recevoir une claque de temps en temps. Et après, quand j'ai grandi, j'ai compris que la violence n'était pas naturelle, que ce n'était pas normal et qu'on pouvait faire autrement. Donc juste cette perspective d'ouvrir, se dire « je peux faire les choses autrement » et je suis aujourd'hui consciente et j'ai la capacité de choisir ce que je veux pour moi-même ou pour ma fille ou pour ma carrière ou pour mon couple, c'est déjà une grosse prise de conscience. Je peux faire les choses comme j'ai envie de les faire. Donc oui, c'est vraiment une transformation dans la maternité. Ça, c'est un des exemples.
Donc aujourd'hui, tu remercies ces moments compliqués que tu as passés en 2019?
Ah, carrément. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des moments compliqués, je me dis là, ça va m'aider à trouver autre chose, à m'en servir comme tremplin, ou à voir ce moment à m'apprendre encore une fois. Donc franchement, oui.
Ne pas avoir peur des moments...
Oui, prise de conscience, voilà. Des moments difficiles.
Exactement. Khaira Bouhaza, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci vraiment à toi Yasmine, j'apprécie ton concept et ton invitation encore une fois. Vraiment merci pour ce que tu fais.
Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.